Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. À l'occasion de la sortie du film Le Dernier Duel de Ridley Scott en salle ce mercredi 13 octobre, j'ai eu envie d'évoquer pour vous le duel judiciaire qui opposa Jean de Carrouges et Jacques Le Gris à l'hiver 1386. Mais qu'est-ce qui a conduit ces deux amis, un chevalier et un écuyer, à s'affronter à mort ? Dans quelles circonstances le combat a-t-il été organisé et comment s'est-il déroulé ? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'un duel judiciaire au Moyen-Âge ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode en deux parties.
Moi, Jean de Carrouges, je jure sur la vraie figure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et sur les saints évangiles, sur la foi du baptême que je tiens pour chrétien, sur mon vrai Dieu, sur les très souveraines joies du paradis pour lesquelles je renonce aux très angoissantes peines de l'enfer, sur mon âme, sur ma vie et sur mon honneur, que j'ai bonne, juste et sainte querelle contre ce faux et mauvais traître, parjure et menteur à la fois, celui-là même que je vois devant moi. Et de ce que j'appelle Dieu à mon vrai juge, Notre-Dame et Monseigneur Saint-Georges le bon chevalier, je fais le serment de n'appeler sur moi ni sur mon cheval aucune parole, pierre, herbe, charme, chariot, ni conjuration, invocations ennemies, nulle autre chose qui puisse me venir en aide ou lui nuire. Je n'ai recours qu'à Dieu et à mon bon droit, par mon corps, par mon cheval et par mes armes.
La scène se déroule à Paris le 29 décembre 1386. Sur le champ Sainte-Catherine, non loin du domaine des Templiers, deux hommes s'apprêtent à croiser le fer sous le regard du roi, de sa cour et de la multitude. Il fait très froid, plus que d'ordinaire. Depuis plusieurs décennies, les hivers sont particulièrement rigoureux. Le duel qui s'annonce n'est pas un affrontement comme les autres. En France, il n'est pas rare de voir des chevaliers se prêter à des combats singuliers. On règle de cette façon bien des différends personnels, des querelles anciennes. Ou bien on veut simplement éprouver sa force. Mais alors l'affaire se passe en privé, avec quelques témoins. Mais aujourd'hui, sur ce champ qui se trouve juste à la frontière nord de Paris, délimité par la toute nouvelle enceinte construite par Charles V, le combat revêt une dimension extraordinaire et solennelle. L'un des deux protagonistes, Jean de Carrouges, en a appelé au Parlement pour obtenir le droit de provoquer un certain Jacques Le Gris en duel judiciaire. Une procédure typique du Moyen-Âge chrétien qui se fait sous le regard direct de Dieu. Un Dieu qui ne sera pas seulement un témoin passif du duel, mais partie prenante, puisqu'il donnera la victoire à celui des deux combattants qui est dans son bon droit. Mais à cette lointaine époque qui plaçait Dieu au centre de tout, on n'en appelait pas pour autant au juge suprême pour un oui pour un non. Invoquer le nom du Très-Haut en vain était d'ailleurs considéré comme un crime. Non, lorsque l'on voulait prendre Dieu à témoin dans les affaires privées, il fallait respecter un certain nombre de règles précises et suivre une procédure administrative complexe. Dans les affaires d'honneur, obtenir le droit d'avoir recours au duel judiciaire mettait l'offensé comme l'offenseur face à leur responsabilité de chrétien. Le juge invité à décider de l'issue du combat étant Dieu lui-même, il n'était plus question de mentir si l'on était vraiment croyant. Ainsi, il fallait un certain nombre de critères pour décider le Parlement à autoriser le fameux duel.
Premièrement, nous ordonnons qu'il soit chose notoire, certaine et évidente, que le maléfice soit advenu. Cela signifiant la clause où apparaît de façon évidente meurtre, trahison ou semblable maléfice. Deuxièmement, il faut que le cas soit tel que peine de mort dût s'en suivre. Troisièmement, il faut que l'offense ne puisse être punie autrement que par voie de duel. Quatrièmement, il faut que l'offenseur soit accusé de faits selon des indices ou présomptions semblables à la vérité.
En cette matinée d'hiver, toute la cour est rassemblée autour du champ où va se dérouler le duel. C'est un espace rectangulaire de 40 pas de large et 80 de long. Le roi Charles VI, qui n'a pas encore 18 ans, s'apprêtait à traverser la Manche avec ses troupes quand il a appris que devait se tenir ce combat. Il a aussitôt ajourné son départ pour l'Angleterre. Il ne veut en aucun cas manquer le spectacle. Le jeune monarque, c'est un fait notoire, a un goût prononcé pour les rixes de toute nature. Il aime la guerre, il aime se battre. Autour de lui, on se souvient de cette bataille de Comines, au terme de laquelle ce roitelet de 12 ans avait regardé, impavide, les cadavres amoncelés de part et d'autre de la Lys. On a dressé un échafaud en face du champ Sainte-Catherine, depuis lequel il va assister, accompagné des ducs de Bourgogne, de Berry et de Bourbon, ses oncles, au duel sans merci qui va opposer Jean de Carrouges et Jacques le Gris. Les oncles de Charles VI ont félicité le roi pour sa décision de remettre à plus tard ses affaires en Angleterre. En aucun cas il n'aurait fallu perdre cette occasion d'assister à un règlement de compte où Dieu, en personne, guidera le bras du plus juste des deux champions pour lui donner la victoire. Philippe le Bel avait en effet supprimé cette pratique, avant de la restaurer avec quelques menus amendements. Dans le royaume de France, les duels judiciaires se faisaient rares, très rares. D'autant que l'Église, depuis longtemps, regardait la procédure d'un œil sourcilleux. Depuis Rome, le pape avait même fait interdire la présence des clercs dans le cortège qui habituellement accompagnait les duellistes. Sans eux, il manquait un petit peu de la part de solennité qui enveloppait le combat de mystère. Mais qui donc sont les deux hommes qui s'apprêtent à combattre ? Le motif de leur querelle a fait couler assez d'encre pour qu'on puisse se faire une idée de leurs personnalités respectives. Jean de Carrouges, l'offensé, celui qui a demandé au Parlement de Paris d'autoriser le duel, est un chevalier connu pour sa vaillance. Jeune, il a combattu aux côtés de Du Guesclin. Par son sang, il est apparenté à Philippe le Bel. Veuf de son épouse Jeanne de Tilly, il s'est remarié à l'âge de 30 ans à une femme connue pour sa grande beauté, Marguerite de Thibouville. Bon sang ne saurait mentir, Jean de Carrouges, aussitôt remarié, repart servir le roi de France dans l'incessante guerre qu'il oppose aux Anglais. En 1385, un an et demi avant les faits dont nous parlons, il revient d'une expédition en Écosse. De retour à son château, il retrouve son épouse anéantie. Elle va lui apprendre en larmes qu'elle a été violée par Jacques le Gris, un ami de longue date de Jean de Carrouges. Ce dernier est sous le choc. Jacques le Gris, qui est presque un frère pour lui. Jacques le Gris à qui il a demandé de veiller sur sa femme en son absence. Selon Marguerite, il s'est présenté au château, a dîné avec elle et sa suite en tout bien tout honneur. Puis il a désiré la raccompagner dans ses appartements situés à l'étage supérieur du donjon. Une fois dans la pièce, il a refermé la porte, l'a verrouillée. Puis il a consommé son crime dans la plus parfaite tranquillité. À cet endroit du château, personne ne pouvait entendre les cris et les sanglots de la malheureuse. « Jacques, vous n'avez pas bien fait de m'avoir vergondé. Mais le blâme n'en demeurera pas sur moi plus que sur vous si Dieu accorde que Monseigneur mon mari revienne. » Jean de Carrouges est un homme d'action et de terrain, un homme qui, en outre, connaît parfaitement le droit de l'époque. Il croit son épouse sur parole. Mais en l'absence de témoins directs, il sait que rien ne pourra se régler au niveau judiciaire que par un jugement qui en appelle à Dieu lui-même. Il connaît les critères d'élection au duel judiciaire. Parmi eux, il y a la nécessité de rendre notoire l'offense subie. Aussitôt, il fait réunir tout le personnel du château. Ces gens-là étaient présents le soir du crime. S'ils n'ont rien vu, ils doivent au moins pouvoir confirmer la présence au dîner de Jacques le Gris et d'éventuels changements observés dans l'attitude de la pauvre Marguerite. Devant eux, Jean de Carrouges demande à son épouse de répéter tout ce qu'elle lui a dit. En cet instant, il sait qu'il va pouvoir demander une procédure d'exception. Provoquer Jacques le Gris en duel et demander à Dieu lui-même d'armer son bras pour venger l'offense.
« Dame, que la chose soit ainsi que vous me la contez, je vous le pardonne. Mais l'écuyer mourra par ce fait, par le conseil que j'en aurai de mes amis et des vôtres. »
Jacques le Gris est stupéfait quand il apprend le crime dont on l'accuse. Comme Jean de Carouge, il fait partie de la maison du comte d'Alençon. Ce dernier le couvre de son estime et de son amitié. Il ne croit pas un seul instant que son protégé ait pu se commettre dans une pareille affaire. D'ailleurs, il peut en témoigner, Jacques était chez lui au moment où Marguerite affirme avoir été violée.
Ceux de l'hôtel du comte d'Alençon peuvent en témoigner. J'étais chez le comte à 4 heures. Il peut affirmer que j'étais avec lui dans sa chambre à 9 heures. C'est chose impossible que d'avoir chevauché, d'aller et venir et d'accomplir le fait dont on m'accuse. De parcourir 23 lieues en 4 heures et demie.
Pour parcourir à cheval 23 lieues, c'est-à-dire approximativement 80 kilomètres, festoyer et commettre un viol, il paraît en effet impossible que 4 heures et demie aient suffi. Qu'importe, Jean de Carouge ne veut rien entendre. Il a une confiance aveugle en sa femme, d'autant qu'un événement est venu à point pour charger le dossier contre le gris. Marguerite est enceinte. Durant 18 mois, Jean de Carouge et Jacques Legris vont se rendre au Parlement pour répondre aux convocations des magistrats chargés de l'affaire. Jean de Carouge a juré qu'il ne lâcherait rien. Son attitude lui a attiré, selon lui, la haine du comte d'Alençon, par qui il aurait craint d'être mis à mort si l'histoire n'avait pas été rendue publique par le Parlement. Et ce dernier va rendre sa sentence. Il arrête que seul un duel sous le jugement de Dieu pourra donner raison à l'un ou l'autre des protagonistes. Selon la formule consacrée, « champ de bataille à outrance » se fera donc à Paris entre Jean de Carouge et Jacques Legris. Le Parlement aura fait une petite entorse au règlement en ajoutant le crime de viol à une procédure qui, à l'origine, ne concernait que le meurtre ou le parjure. Reste un détail d'importance. Seuls des chevaliers peuvent s'opposer dans un tel combat. Or, Jacques Legris est simple écuyer. Il sera donc adoubé pour la circonstance. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach et l'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit Au cœur de l'histoire, consacré au duel judiciaire entre Jean de Carouge et Jacques Legris.